Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h06, vous êtes sur RMC à l'écoute des grandes gueules du sport, c'est jusqu'à midi en direct bien sûr avec ce matin Marion Bartoli, Jean-Michel Larquet, Christophe Cessieux et Renaud Longuèvre. Si vous vous réveillez seulement maintenant ce dimanche, ben vous avez de la chance, mais vous avez aussi raté les deux premières heures des GG et c'est retrouvé en podcast bien sûr dès maintenant avec notamment un bras de fer sur les primes pour les joueurs nantais, un excellent débat Marion Bartoli, Christophe Cessieux là sur le mondial féminin qui ne sera peut-être pas diffusé en France, enfin tout ça c'est à retrouver évidemment en podcast. Dans 30 minutes, nouvel épisode de C'était mieux avant de Christophe Cessieux. Cette fois, tu t'es intéressé à une rivalité historique en basket entre Pau Orthez et Limoges. Donc ça va être évidemment à ne pas rater. Et puis n'oubliez pas, dans les GG, votre rendez-vous à vous, les GG et vous, le 32-16 déjà ouvert. Vous appelez le standard, vous venez pour réagir à l'émission. Mais d'abord, la France a peur.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Mais si on se projette un peu dans deux ans chez nous pour les Jeux Olympiques, il y a de quoi être très très inquiet.
Il y a toujours de l'espoir.
Avec une seule médaille, alors certes en or, le clan français réalise tout simplement le pire bilan dans des mondiaux depuis 1993.
Je vous l'affirme, c'est pas terrible, c'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros.
Au tableau des médailles, les bleus ne pointent qu'à la 22e place entre les Bahamas et le Kazakhstan.
Oh. Alors nous sommes tous d'accord pour dire que Jean-Claude est nul.
Ah oui,
ouais. Figurez-vous que c'est le moins mauvais d'entre vous.
C'est quand même bien loin des 5 podiums de 2017 à Londres, des 6 de Gébrio en 2016.
C'est brillant, une fois tous les 2 ans, voire une fois tous les 4 ans sur un championnat du monde.
Je trouve qu'on a quand même eu une équipe de France qu'on a retrouvée au niveau du caractère. C'est ce que je voulais. J'avais annoncé au début du championnat que je voulais voir des attitudes sur la piste.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Vas-y, Marion. Si vous avez suivi le dernier meeting de la Ligue de Diamants, c'était ce vendredi à Doha, vous pouvez toujours chercher les Français en haut de l'affiche, il y en avait qu'un qui était présent. Bon, il a quand même terminé 3e de 400 mètres ES, et Wilfried Apiot. Mais cette question, les GG, l'athlétisme français va-t-il tout droit vers un zéro pointé aux Jeux Olympiques? Oui ou non? Marion Bartoli.
Je pense que Kevin Mayer sera le seul à pouvoir nous sauver, donc quasi le zéro pointé.
Un quasi oui. Christophe Cessieux.
Bah, on compte sur Kevin, hein, parce que pour le reste, ça va être dur.
Jean-Michel Larquet.
Le bilan sera triste.
Vous ne voulez pas répondre par où, pardon.
Non, mais tu joues à Madame Irma, là. Comment tu...
Alors, on va demander
oui.
Un spécialiste. Renaud Longuèvre.
Oui, oui, oui.
Ah, oui pour Jean-Michel Larquet. Renaud.
Non.
Il ne peut pas, là.
Viens nous éclairer, Renaud.
Il ne peut pas dire ça. C'est lui qui a formé toute cette génération. C'est lui qui a formé cette génération.
Tu veux dire, c'est le responsable. Ça fait plusieurs années, en tout cas, que l'athlétisme français va mal. Il y a bien eu effectivement les 6 médailles à Rio en 2016, mais depuis, les dernières performances de nos bleus ne rassurent pas. Et à un peu plus d'un an des Jeux Olympiques, on se demande vraiment, vraiment, qui va pouvoir monter sur un podium. Valentin Jamin.
Oui, il y a ce bilan brut. D'abord, sur les deux dernières compétitions internationales, la France n'a gagné que 2 médailles. L'argent pour le décathlonien Kevin Mayer au JO de Tokyo et l'or pour ce même Kevin Mayer au Mondiaux de Eugene l'an dernier. Sinon, c'est un zéro pointé pour les Bleus qui sont loin aujourd'hui d'être tout en haut des classements mondiaux. 8 Français en tout sont dans les top 8 de leur discipline, ce qui n'aide pas les tricolores à être invités aux toutes meilleures compétitions. On ne fera pas 10 médailles à Paris, nous avouait Romain Barras, directeur de la haute performance à la fédération il y a quelques semaines. Cette fédération qui avait d'ailleurs insisté après Tokyo sur un plan Ambition 2024 pour accompagner les athlètes à fort potentiel. Mais pour y croire, on s'appuie quand même sur les 9 breloques au championnat d'Europe l'été dernier, même si la concurrence était moindre. En dehors des cadres que sont Mayer, Pascal Martineau-Lagarde ou Quentin Bigot, il y a cet espoir d'une relève sur les haies, par exemple, avec Jusko Umaté, qui disait ressentir des bonnes ondes depuis les Europes. Sacha Zoya, recordman du monde junior, mais qui n'a pas réussi à confirmer chez les seniors. Il y a aussi Sirena Samba-Mayela, championne du monde en salle. Jules Pommery, médaillé de bronze à la longueur au championnat d'Europe. Gabriel Tual, Benjamin Robert sur 800 mètres. Thibaut Collet ou Margot Chevrier en saut à la perche, Jimmy Gressier aussi, et on compte pourquoi pas sur Wilfried Apiot, 4e au Mondiaux, et lui se rapproche vraiment des tout meilleurs. Ce sont des athlètes performants, mais pour beaucoup, pas encore au plus haut niveau international. Et pour s'en rapprocher, justement, une cellule optimisation encadrée par l'ancien entraîneur de Kevin Mayer, Bertrand Valsin, a été mise en place avec GPS, protocole en altitude ou encore un accompagnement mental. Il reste un peu plus d'un an maintenant pour voir si cela porte ses fruits et pour que les tricolores se frottent à l'élite de leur discipline, notamment fin août lors des Mondiaux à Budapest, où la France y verra très sûrement plus clair et ajustera ses ambitions à un an des Jeux de Paris.
Valentin Jamin pour RMC. L'athlétisme français va-t-il tout droit vers un zéro pointé aux Jeux Olympiques? Christophe, tu as répondu quasi oui.
C'est-à-dire, il faut vraiment prier pour qu'il n'arrive rien à Kevin Mayer. Or, on sait que le décathlon est une épreuve très énergivore où la blessure guette l'athlète à toutes les disciplines. Ça dure deux jours. C'est terrible. Et on sait en plus que Kevin est fragile, comme tous les décathloniens, parce que c'est des machines de précision. Et il a déjà été blessé à plusieurs reprises. Mais c'est vrai qu'il faut prier pour que Kevin, il n'y arrive rien et qu'il soit en état de performer. S'il n'y arrive rien, il aura une médaille, c'est quasiment certain. Il est numéro un au ranking mondial, il est champion du monde, il est vraiment au top de alors peut-être pas la médaille d'or, mais en tout cas voilà, il y aura une médaille. Mais derrière, alors c'est vrai que Valentin nous a donné une longue liste de noms. Renaud me précisera s'il faut en tirer importance, mais le ranking mondial.
Ne t'inquiète pas, je te surveille.
Le ranking mondial. Quand tu regardes le ranking mondial, donc dans toutes les disciplines, je me suis amusé à regarder hier soir, on a 7 athlètes français seulement qui figurent dans le top 10 par discipline chez les garçons. Chez les filles, une seule. Une seule. On a, donc je vous le disais,
Kevin Mayer
qui est numéro 1. Il y a Schrub qui est deuxième, je sais pas Schrub, enfin Schrub, deuxième en cross, Appiot quatrième sur 400 mètres haies, Lavilleni quatrième à la perche, Bigot cinquième au marteau, Robert Etual qui sont 7 et 8 sur 800 mètres, et puis c'est tout. C'est tout, les autres sont 20, 25, 30, 50, 60, c'est très loin. Donc alors je sais pas quelle importance donner à ce ranking mondial, je sais pas si c'est aussi important qu'en tennis et Renaud va nous dire dans un instant. Mais c'est très inquiétant. Moi, j'ai l'impression que l'athlétisme français est au plus mal depuis de l'histoire de l'athlétisme français. Absolument. Il y avait toujours, quand tu regardes les bilans des Jeux, en 2008, tu ramènes 3 médailles, en 2012, 1, 2, 3, 3 médailles également. Oui. À Rio de Janeiro, il y a pas de médaille d'or, mais tu as 6 médailles.
Même, c'est beaucoup.
Voilà, là, au dernier championnat du monde, à part Maillard, il n'y a rien.
Tu as les grandes années de l'athlète français. Hein.
Et puis, n'en parlons avec pas des années en retard, avec des années plus loin avec Pérec et compagnie, Quinon et tous les perchistes. Là, on est au creux de la vague et on est à un an des Jeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on explique qu'on soit aussi nul, quoi?
Jean-Michel, Christophe, tu plaisantes ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est la prime de match du FC Nantes. C'est-à-dire que exceptionnellement, on se gargarise parce qu'en un an, le budget du sport est passé de 500 millions à 1 milliard. C'est totalement factice. D'abord parce que c'est pour les Jeux Olympiques, cocorico, donc on a fait une augmentation de plus de 100%. 120% exactement. Mais on s'imagine, en haut lieu, qu'on fabrique un athlète en un an? Mais le sport français, d'une manière générale, le sport français à l'école, en tant qu'ancien, très très ancien prof de gym, mais c'est un véritable scandale. C'est absolument. Mais c'est normal qu'on soit à ce point-là. Et les gens s'imaginent qu'en mettant 1 milliard de centimes en un an, en football comme en rugby, sur des joueurs qui ont du talent, il faut une génération, c'est-à-dire 4 ou 5 ans, pour former un bon joueur d'un U15, qu'il devienne un bon footballeur, éventuellement un footballeur professionnel, à 20 ans. C'est-à-dire 5 ans. Vous pensez qu'on pense aux Jeux Olympiques depuis 5 ans en France? On va s'en occuper là, dans les 6 derniers mois. Donc, on n'a que ce que l'on mérite.
Ouais, mais Jean-Michel, dans d'autres disciplines, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Regarde, en natation, il y a eu des périodes d'euphorie, puis t'es retombé dans le creux de la vague. Et là, tu sens qu'il y a une génération qui arrive et qui va vraiment se confronter au meilleur. Donc, est-ce que la fédération d'athlétisme a bien joué? On va voir avec Renaud. Mais tu vois, il y a des disciplines qui sont remises en question et qui ont repris du poil de la bête.
Moi, j'aurais
adoré, c'est pas le cas de l'athlète, quoi.
Juste au passage, avoir comme prof de gym Jean-Michel Larquet.
Ça devait
c'est pas à mon avis quand tu faisais, quand t'essayais de tricher et faire un tour en moins là, tu devais prendre des
coups de cacher là, c'est caché.
Tu vas reprendre le volet quand tu triches. Christophe, ben c'est normal, enfin ça.
C'était sévère.
C'est la pédagogie des années 80 ça.
Les doigts comme ça avec la règle, ça tapait où.
On pouvait pas se cacher quand on faisait les tours de
un tyran le harqué.
Renaud, du coup effectivement, bah tu es le spécialiste ici, c'est vrai que les Jeux Olympiques de 2024, on le sait pas depuis cette année qu'on les a obtenus. Et pourtant, on a l'impression que rien n'a été fait véritablement pour pousser une nouvelle génération.
Bah, Jean-Michel a très bien résumé les choses. Hein. Pour former un médaillé olympique, il faut entre 7 et 10 ans. Les choses se sont jouées après 2016. Les choses se sont jouées après les Jeux Olympiques de Rio, où le tableau était plutôt bon, avec 6 médailles, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Il n'y avait certes pas de médaille d'or, mais il y avait un collectif, et puis il y avait des résultats dans les championnats d'Europe qui étaient excellents. On avait un DTN qui venait de la lutte, Gany Yalouz, qui avait ramené des valeurs très très simples, beaucoup de confiance, un état d'esprit collectif, les spécialités qui d'habitude, les sprinteurs qui snobaient un peu tout le monde, c'était fini. Il y avait vraiment du respect. Moi, je me souviens des grandes tablées, les lanceurs bouffaient avec les sauteurs, les marathoniens qui échangeaient avec les sprinteurs. Vraiment, Gany, il avait fait un boulot formidable pour remettre vraiment du lien humain dans l'équipe de France, et ça se ressentait partout. Et voilà, je suis désolé, je vais nommer et incriminer une personne. C'est le président de la fédération, c'est André Giraud qui est responsable de ce déclin. Et il faut qu'il assume ses responsabilités. C'est quelqu'un, je l'ai dit sur cette antenne, qui est inattaquable en tant qu'homme. C'est quelqu'un qui est très sympathique, avec qui c'est très difficile de se fâcher.
Manquerait plus qu'il morde.
Qui n'a pas les problèmes de Monsieur Le Graët ou de Bernard Laporte, mais qui n'a aucune compétence par rapport aux responsabilités qui sont sur ses épaules. Et tous les choix qu'il a effectués en matière de haut niveau se sont révélés catastrophiques. Il faut bien vous rendre compte, c'est qu'il a pris un DTN qu'il a viré lui-même parce que ça convenait pas, alors que tout le monde l'avait prévenu que c'était pas la bonne personne. Il l'a viré donc en décembre 2020, et donc on s'est retrouvé donc à 3 ans des Jeux sans DTN pendant 1 an. Les pays étrangers,
moi, je te rassure, nous, on en a un football, personne le connaît, hein, c'est pas grave.
Les pays étrangers rigolent, si vous voulez. Oui, mais Jean-Michel, le DTN en athlée, c'est comme le sélectionneur de l'équipe de France, c'est un peu comme Didier Deschamps, si tu veux. C'est un poste clé.
Et donc, moi, j'ai une
si
question pour toi, Renaud.
Ouais, vas-y, Marion.
Ce qui m'intéresse énormément, parce que effectivement, tu sais, aux États-Unis, ils ont une culture de l'athlée qui est colossale. Quand je voyais encore à Eugene, là, en Oregon, le nombre de médailles qu'ils ont. Quelle est finalement la différence la plus importante, parce que tu dois certainement connaître leur méthode de formation, leur méthode d'entraînement, etc. Au-delà, bien sûr, que c'est un pays beaucoup plus grand que le nôtre, ça, j'en en dis combien pas, mais est-ce qu'il y a de très grosses différences dans la formation des athlètes et dans l'entraînement?
Regarde, Jean-Michel a parlé d'argent tout à l'heure. Aux États-Unis, tu le sais, Marion, il y a en NCAA, il y a 980 universités. Chaque université a l'équivalent d'une direction technique nationale sur le plan budgétaire. Le head coach est payé $150,000 à l'année. Il a 7 ou 8 assistants coach à temps plein qui sont payés entre $40,000 et $60,000 l'année.
NCAA, c'est le tournoi médical universitaire. Hein, c'est ça.
C'est le
système universitaire. Ouais. Ouais.
C'est le système. C'est le système de compétition. Ils ont un système de compétition qui est imbattable. C'est une usine à produire du haut niveau, le système universitaire américain et les high school avant. Et budgétairement, c'est comme si tu avais 1000 budgets comme celui de la FFA, de la Fédération Française d'Athlétisme, dans un même pays. Donc tu vois, c'est complètement imbattable. Mais si tu veux, pour revenir par contre au débat et recentrer le sujet, c'est que, juste pour clore, je comprends pas, mais une chose, je vais encore interpeller une autre personne, c'est Claude Onesta. Claude Onesta, il y a eu une passe d'armes avec le président de la Fédé après Tokyo, où il a dit je tire la sonnette d'alarme, on va piloter la voiture à deux pour éviter qu'elle aille dans le mur à Paris. Mais et il avait raison parce que le président lui vendait du rêve en disant mais non, tout va bien. Mais force est de constater que c'est le président de la Fédé qui a gagné et que l'ANS, elle a complètement baissé les bras. Donc là, moi, j'aimerais bien que Claude Onesta il nous dise pourquoi il a abandonné l'idée d'aider l'athlète français. Mais pour pour revenir
oui,
au débat, il y aura pas
zéro est chargé de la haute performance, hein, c'est ça, des voilà, équipes de France en vue des Jeux Olympiques. Il a été chargé de ça.
C'est le patron de l'Agence nationale du sport qui est censé nous amener le nombre de médailles de toute l'équipe olympique. Et c'est vrai qu'en athlétisme, il y a quasiment 150 médailles de distribuer. Donc à un moment, au basket, il y aura une médaille pour les hommes, une médaille pour les femmes. Non, il y a le 3x3 maintenant. Mais enfin, au foot, par exemple, il y a que deux médailles possibles ou six, si tu veux, avec or, argent, bronze. Pour revenir au débat, il y aura pas zéro médaille. Pourquoi ? Parce que l'effet à domicile va jouer. Si j'étais patron de l'équipe de France, j'en parlerais surtout pas, parce que faut surtout pas arriver en se disant il y a un effet à domicile qui va jouer pour nous. J'aurais déjà signé, sonné l'alarme et l'alerte rouge. Mais si tu veux, le champion olympique du 100 mètres, la montre Marcel Jacobs, l'Italien. Personne ne l'a vu arriver. Un an avant, il est nulle part. Christophe, t'as repris les bilans tout à l'heure. Regarde bien, il est nulle part. Maïdine Mekissi Benabad en 2008, il est nulle part. On l'a pas sur les écrans radars. Là où vous avez tous raison.
Ça fait toujours un peu peur, ça aussi.
Et ça fait peur, faut pas s'appuyer là-dessus.
Non, mais ça, c'est mais toujours moi, les surprises, les grandes surprises des Jeux Olympiques. Voilà, c'est Colette Besson à Mexico. Voilà, c'est où on l'a vu venir de nulle part. Ça a toujours existé. Et tant mieux si ça continue d'exister, ça, Renaud.
Il y a un précédent, les mondiaux à Paris, je crois, en 2003, au Stade de France, donc. Il y a eu quand même une réussite. Il y avait huit médailles, dont trois titres, à ce moment-là. Ce qui veut dire que peut-être que l'effet, domicile va jouer à plein, même si bien sûr les mondiaux et les JO.
C'est un très bon exemple. Pour ceux qui se rappellent, par exemple, il y avait eu une très belle médaille sur 400 mètres, ouais. Marco Raquel, le grand sprint. Blond avec sa ligne droite phénoménale. Incroyable. Eh bien, Marc, il est déjà au JO de Sydney où on a zéro médaille et il est éliminé en quart de finale. Et il se révèle vraiment parce que c'est un gamin de Maison Alfort et que les JO chez lui et ça le booste et il va chercher une médaille magnifique sur le 400. Donc, on aura, moi je crois fort aux les gamins sur 110, tu vois. Sacha Zoya, c'est quelqu'un qui a un destin. C'est un gamin qui a un destin. Et le 110 mètres haies a du réservoir. Les perchistes ont du réservoir. Mais là encore, au moment où on se parle aujourd'hui, ces médailles-là ne sont pas faites. Il faut qu'ils crèvent le plafond pour les faire.
Marion, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai fait comme Christophe. Je suis allée rechercher à la fois les derniers mondiaux aux États-Unis, voir qui était dans les finales de 100 mètres, qui sont quand même les catégories reines. Qui était sur le 110 mètres et qui était dans le double tour de piste, dans le tour de piste. Et j'ai eu vraiment du mal à trouver les noms, à part Kevin Mayer, effectivement, qui a eu cette fantastique médaille d'or alors qu'il avait une blessure assez sérieuse au tendon d'Achille, qui était pas certain de pouvoir disputer cette compétition. Il a magnifiquement remporté. Et je me dis qu'effectivement, on termine 22e coincé entre les Bahamas, le Kazakhstan, le Qatar, la Slovénie, le Venezuela, le Maroc et le Portugal. Arriver à sauver les meubles quand on sait le temps que ça prend pour former un athlète, le temps que ça prend pour à la fois faire des blocs d'entraînement, des blocs de musculation, des blocs de préparation physique, à la fois être compétitif en course, pouvoir se mettre à niveau pendant les compétitions, gérer le stress, quand il y a de tels écarts, je me dis que ça paraît extrêmement compliqué. Mais après, je crois totalement Renaud, en fait, que en restant optimiste avec effectivement l'effet de jouer à domicile, l'adrénaline, la performance d'un jour, tout ça, bien sûr que ça peut arriver, mais c'est vrai que ma réflexion était plus profonde et c'est pour ça que je t'ai posé la question des États-Unis, parce qu'on voit par exemple qu'en natation, notre champion français est parti s'entraîner chez eux avec l'entraîneur historique de Michael Phelps. Donc voilà, exactement. Donc je me disais peut-être que éventuellement, pourquoi pas, est-ce que ça serait une solution d'aller créer des ponts et d'aller s'entraîner chez eux, puisque ça a l'air d'être les meilleurs et depuis extrêmement longtemps. Mais
bon, voilà, en tout cas, faut rien annoncer. Je sais pas si ça a été annoncé. Il n'y a pas de nombre de médailles qui ont été annoncées pour l'instant. Je pense qu'on leur posera la question, évidemment, Renaud, avant les Jeux Olympiques. Hein. C'est ça la difficulté.
Long game, président.
Non.
Rapatriez-le.
Je veux vivre une vie normale, moi.
Ce serait bien, c'est avec le DTN.
Le DTN, qui est le dernier. La dernière en date du président, c'est d'avoir été quand même chercher un spécialiste de l'aviron, donc Patrick Ranvier, qui est en fin de carrière, hein, donc qui s'arrêtera après les JO, et qui a dit bon. Et puis Romain Barras, Romain qui est un copain, qui a été champion d'Europe, à qui j'ai été consultant, et qui a pas accepté une mission facile. Mais voilà, c'est tout à son honneur. Et Patrick Ranvier a dit d'entrée, bah Romain, va falloir qu'il se mouille, hein, parce que des médailles, moi j'en veux, là là là. Et puis Romain Barras a dit. Non. On va se calmer.
Ça commence bien.
Voilà l'ambiance. Ouais. Donc bon.
Effectivement. Bon, en tout cas, grâce à toi, on a plein de nouveaux amis.
C'est Isidore.
On a plein de nouveaux amis, effectivement, avec Renaud là.
Le successeur de Jean-Michel Martin, c'est bon ça.
Merci Renaud. Dans un instant, les grandes gueules qui continuent, bien évidemment, avec l'histoire d'une rivalité racontée par Christophe Cessieux. Ah, c'est le moment que préfère Jean-Michel Larquet.
Ah, de loin.
Parce que ça s'appelle C'était mieux avant.
Je bois du petit lait. Oh là là,
et c'est dans un instant à ne pas rater, bien sûr.
Ça parle en partie de la région. De Jean-Michel.
Absolument, on a
peur. Eh oui. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h30, tout pile, dans une demi-heure, encore une demi-heure à passer ensemble. Dans une demi-heure, ça sera les paris RMC. Et puis dans un instant, c'est votre moment, les GG et vous. Vous faites le 32-16, vous prenez votre téléphone et vous venez interpeller une de nos GG sur le débat que vous voulez, bien sûr, face à la GG que vous voulez. Alors au choix aujourd'hui, Renaud Longuève, Mario Bartoli, Jean-Michel Larquet ou Christophe Cessieux. Et justement, puisqu'on parle de Christophe, ben, c'est son moment.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avant-français ressortent le grand jeu, Dwyss en tête. Dwyss, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Il y a 36 ans, débutait dans un petit village béarnais une rivalité qui allait enflammer le basket français.
Ce 2 mai 1987, c'est jour de fête à Orthez. Depuis tôt le matin, un seul sujet de conversation anime les 10 000 habitants de la petite ville béarnaise. L'Élan, le club de basket qui fait l'orgueil de la ville, va-t-il réussir à renverser la vapeur et battre le grand CSP Limoges, vainqueur de la finale aller 4 jours plus tôt? À Orthez, on y croit dur comme fer et pour se donner du cœur à l'ouvrage, on met en avant le premier titre de champion de France décroché un an plus tôt par l'Élan au nez et à la barbe des Limougeaux. La Moutette sera chaude cet après-midi. La Moutette, c'est le nom du marché couvert de la ville qui un week-end sur deux range ses oies, ses poules et ses canards pour se transformer en une salle de basket pas comme les autres. Dominique Louel était à l'époque le directeur sportif de l'Élan.
Il n'y avait pas de plancher, c'était une moquette qui recouvrait le béton et de temps en temps, on pouvait sentir la merde des volailles.
Et ce parfum de campagne ne plaît pas vraiment aux Limougeaux, habitués aux grandes salles européennes. Jean-Michel Sénégal, le meneur de Limoges au début des années 80, avouera même un jour en avoir marre de jouer sur du cacadois. Pourtant, les stars du CSP vont devoir faire avec cet après-midi et espérer emporter le match retour, histoire d'éviter une belle programmée, encore une fois, à la Moutette, 48 heures plus tard. Et l'affaire s'engage mal pour les Limousins, rapidement menés par un élan sublimé par son public. L'ambiance est tendue, les accrochages s'accumulent. Il y a 4 minutes de la mi-temps, un coup de coude d'Anderson met le feu aux poudres et rend Karanski, le pivot de Limoges, fou furieux. Une bagarre générale éclate à laquelle Pierre Seyant, le président d'Orthez, va tenter de mettre un terme avec des méthodes peu orthodoxe.
Une altercation plus grave entre Anderson et je crois Ostrowski au départ, et puis ça s'est fini avec Kava et Karanski, qui était un champion de boxe américain, qui fait 130 kilos, qui était un colosse, et qui a failli m'étrangler Kava. Il était couché sur la table de marque. Je suis arrivé derrière en tant que délégué de salle, je l'ai pris par les hanches, et c'est là que je me suis aperçu qu'il était tellement large, tellement costaud, que j'ai appliqué une vieille recette de rugby de l'époque.
Et il a fallu que Pierre Seyant rentre sur le terrain et saisisse Karanski, pardon mesdames, par les couilles pour lui faire lâcher.
Il a commencé à faire des moulinets et on était tous partis déjà, on a pris un peu d'avance. Et deux jours après, ils viennent me voir, ils ont perdu la belle chez nous, il m'a dit hey, man, fuck you. Il rigolait, il m'a dit t'as quand même gonflé, il m'a dit parce qu'à toi là, je ne fais pas ça.
Pierre Seyant, celui que tout le monde surnomme Prési à Orthez, est le personnage emblématique de cette rivalité entre les deux clubs qui débute véritablement ce soir-là. Seyant, à qui l'élan doit tout, c'est sous sa présidence que le club est passé pro en 73, avant de gravir les échelons deux par deux pour se retrouver au sommet du basket français. Seyant, qui adore piquer l'adversaire par des petites phrases bien senties, qui régalent médias et publics et font monter la température, plus que de raison.
À l'époque, on était télévisé sur les chaînes publiques. Donc, à chaque fois, il y avait 3,5 millions, 4 millions de personnes qui regardaient. Et il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook. Donc, on causait à travers les médias et dans les radios. Et on s'envoyait des pics, et plus que des pics parfois. Donc, ça montait, la sauce montait. Et on arrivait au bord du terrain, tout le monde était en feu, quoi.
Ambiance caliente qui conduit à cette bagarre générale et permet donc à Orthez de remporter le match retour. Il faudra donc retourner à la Moutette pour une belle que tout le monde redoute. Jacques Monclar, le meneur du CSP, va même lancer un appel calme.
On joue à notre basket, on n'est pas là pour se battre, hein, de toute façon.
Entre les joueurs, le contentieux sera oublié.
C'est pas un contentieux, c'est une réaction. Et puis, je veux dire, sur ce coup-là, après, il y a beaucoup de gens qui interviennent, qui ceci, qui cela. Mais bon, ça arrive, c'est fini. Et puis voilà, qu'on est là pour jouer au basket, on n'est pas là pour se battre.
Cette fois-ci, point de bagarre, mais un match au couteau indécis jusqu'à la dernière seconde.
Il reste 4 secondes à jouer. Limoges est champion de France. Limoges qui mène 80-80 à Orthez. Juste le temps pour Freddy Hufnagel, le meneur de jeu d'Orthez, d'obtenir 2 lancers francs. Et Hufnagel, sacré meilleur joueur de l'année, ne laisse pas passer l'occasion. Le premier est réussi. Égalité 81 partout. Le second aussi, et Orthez conserve son titre pour la deuxième année consécutive.
Ce que je sais, c'est que j'ai bien fait de les marquer, pas parce qu'on a gagné, parce qu'aujourd'hui je vois encore des gens qui s'en souviennent et ils me disent ah, t'as marqué, hein, c'est franc. Je dis, je n'ose pas imaginer si je l'avais raté. J'aurais été obligé d'échanger de contrée.
La marée verte peut alors déferler sur la Moutette, une marée insensible au désespoir des joueurs de Limoges.
Orthez, le petit village gaulois exulte et Limoges enrage. Le CSP Grande Europe se fait alors la promesse de ne plus jamais connaître pareille humiliation. Et pour cela, Limoges va mettre les moyens, recruter les meilleurs et confier les clés du camion à Michel Gomez, un entraîneur qui va redorer le blason du club limougeot. L'année suivante, le CSP rafle tout sur son passage. Championnat de France, tournoi des As et Coupe des Coupes, plus la petite cerise sur le gâteau, une victoire à la Moutette 99-98. Cette fois-ci, c'est le Béarn qui est en berne et qui va le rester longtemps. Limoges connaît son âge d'or, remporte 5 titres de champion de France en 7 saisons et surtout devient en 93 le premier club français à remporter l'Euroleague, la Ligue des champions du basket.
Ce soir, pour la première fois, ce sont des Français qui sont heureux en finale de la Coupe des Clubs Champions.
Et alors que tout le pays célèbre les héros limougeaux, à jamais les premiers, les Béarnais, eux, l'ont mauvaise. Pendant que Pierre Seyant évoque une victoire remportée à crédit, Freddy Fautou, de son côté, à l'éboule, c'est lui qui le dit, « Je n'étais pas pour Limoges, clairement, je m'en fichais qu'on m'explique que c'était une victoire pour le basket français. Je ne peux pas admettre que c'était bien que Limoges soit champion d'Europe. Je peux pas. Désolé. » Fautou, le petit tout, symbole de l'élan béarnais et joueur le plus détesté des limougeaux. De leur côté, celui que les Béarnais exècrent le plus se nomme Richard Dacoury, capitaine au long cours du CSP. Un club dans lequel il a passé 18 saisons. Dacoury, élevé dans la détestation de l'élan Béarnais, est passeur de relais. Voici ce qu'il enseigne à Jim Bilba lorsque celui-ci débarque dans le Limousin en 92. Propos recueillis par Anthony Goods, ancien de l'élan et auteur d'un documentaire sur la rivalité intitulé « The Derby ».
La première fois que je suis arrivé, il y a Richard Dacoury qui était notre capitaine. Il m'a dit, ici, on ne doit jamais perdre contre Pau, que ce soit ici ou à Pau. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était le classico. Et il m'a dit, je vais te montrer comment ça se joue le classico. La première seconde, il commence comme ça le match. Et il rentre, il fait une faute dure sur Didier Gadou. Il m'a dit, tu sais pourquoi j'ai fait ça? C'est juste pour lui montrer que ce soir, c'est nous qui allons gagner.
Et lorsque l'heure du classique approche, les supporters, eux aussi, savent faire passer les messages. Fred Weiss, qui entame sa carrière professionnelle à Limoges en 95, va rapidement apprendre les codes.
Une semaine, voire 15 jours avant, tout le monde venait nous voir en disant « Fred, c'est ce match-là qu'il faut gagner ». Quand on parlait des supporters, comme ils les insultaient tout le temps, c'était rentré dans mon ADN. Et donc, je commençais à penser comme eux que les gens de peau n'étaient pas des gens bien. C'était viscéral, je ne pouvais pas les supporter. Quand je les voyais à la télé, je les détestais. J'espérais que l'équipe d'en face les batte. Quand ils venaient ici, j'avais envie de les taper, que j'ai détesté et que je leur voulais que du mal.
Et ainsi, saison après saison, domination de l'un puis de l'autre, le basket français va vivre son âge d'or au rythme de cette rivalité exacerbée dont vont se nourrir les joueurs pour progresser. C'est l'avis de Freddy Fnagel.
Ce que j'aime le plus, c'est que ça nous a obligés à nous préparer différemment, à rentrer plus dans le basket à 100, 110%, 120%, 130%. Cette rivalité, ça fait que les deux clubs, les joueurs, le public, tout le monde a progressé grâce à ça.
L'élan béarnais qui, après avoir subi la longue domination du CSP, va retrouver le chemin du succès. Le club a déménagé, quittant la sacro-sainte Moutette pour le tout nouveau, tout beau Palais des Sports de Pau. Sacré champion de France en 96, il vient chercher un nouveau titre 2 ans plus tard dans l'antre de l'ennemi, le Palais des Sports de Beaublanc.
Et on attend et on savoure et c'est terminé. Maintenant, Portez est champion de France.
Je crois que remporter un troisième titre en plus sur le parquet de Limoges, il faut connaître des joies intenses, je crois, dans une carrière de basket. Et là, j'ai pas les mots pour dire, mais c'est fabuleux. Pour moi, c'est quelque chose de grand.
Et... Didier Gadou et Portez, champion de France 1998.
Et c'est désormais au tour de Limoges de connaître une baisse de régime, non pas sur les parquets, mais en coulisses. Après avoir vécu des années au-dessus de ses moyens pour attirer stars étrangères et françaises, les finances du club sont exsangues, il est au bord du dépôt de bilan. Pourtant, la saison 99-2000 sera l'une des plus belles sur le plan sportif. Le CSP, orphelin de titres depuis 94, s'offre festin et triplé championnat, Coupe de France et Coupe Corage, se payant au passage le luxe d'éliminer l'élan béarnais en demi-finale.
19 points d'avance pour Limoges, c'est beaucoup. Voilà, c'est gagné, Limoges en finale.
Non, nous, on n'a plus rien à perdre. Nous, on a fait du bonus, on est en dépôt de bilan maintenant. Donc on arrive à laisser ses problèmes en dehors, même si c'est vrai qu'à la longue, ça devient un petit peu fatigant.
Les lendemains seront plus durs encore pour Yann Bonato et les siens, relégués administrativement en Pro B malgré leur titre. 4 ans plus tard et après plusieurs tentatives de sauvetage, Limoges touchera même le fond, remisé cette fois-ci en National 1, la 3e division. Une situation qui prive alors durant plusieurs saisons le basket français de son match phare. Plus de classique, adieu la rivalité, le championnat de France de basket perd de son aura et de sa visibilité médiatique. Il faudra attendre 2010 pour que les fans des deux clubs rivaux retrouvent de la voix et de l'enthousiasme lorsque leurs équipes se retrouvent en finale du championnat Pro B. Mais qu'importe le niveau, ce qui compte c'est de s'affronter entre vieux ennemis. Les chants des supporters remisés au placard pendant trop d'années refont surface aux abords de Bercy où a lieu la rencontre. Si les Lambernais s'imposent facilement ce soir-là, les supporters limougeaux ne sont pas aussi tristes que d'habitude. Non, bien que battus, ils le savent, leur club retrouvera l'élite la saison d'après. La promesse de nouveaux clashs face au vieux rival béarnais. La remontée du CSP dans l'élite, saluée par tous, même par Pierre Seyant. C'est vrai qu'ils ont manqué dans le paysage, dira l'ancien président de l'Élan. Leur retour est la meilleure des choses. Pierre Seyant, à qui je vais maintenant laisser le soin de conclure, de manière brève mais explicite, lorsqu'il répond à cette question. Qu'avez-vous aimé le plus, Prézi, dans cette rivalité ?
Mes emmerdés.
C'était mieux avant, sur la rivalité Portez-Limoges racontée par Christophe Cessieux, à retrouver évidemment en podcast comme tous les autres épisodes. Évidemment, c'est une spéciale Jean-Mimi, c'est pour Captain que tu as fait ça, Portez, ça te parle, évidemment.
Ça me parle d'autant plus que ce matin, eh bien, du côté de Portez, on a déjà plus d'un pied en Pro D2, enfin je dis Pro D2,
en Pro B. Ouais.
En Pro B, parce qu'on a encore perdu et que l'héritage de Pierre Seyant est très lourd et que ceux qui ont pris le relais, le témoin, étaient très très loin des compétences de Pierre Seyant. Mais très très loin, ils n'avaient rien à voir. Et comme disait l'autre, ils ne savaient, ces gens-là, ils ne savaient pas où était l'avant et l'arrière d'un ballon de basket.
113e Classico qui a eu lieu d'ailleurs le mois dernier, au mois d'avril. Et Portez avait battu Limoges, mais c'est vrai que Portez est en grande difficulté cette saison. Limoges n'est que 13e. Christophe Cessieux, Jean-Michel Larquet, mais aussi Marion Bartoli, Renaud Longuèvre. On revient dans un instant. Les GG avec votre moment. Les GG et vous, 32-16. Vous prenez votre téléphone, vous nous rejoignez et vous venez débattre avec la grande gueule de votre choix. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h47, dans un instant, à partir de midi, on retrouvera la Dream Team des paris RMC avec notamment des paris sur le match de la peur cet après-midi. Nantes-Strasbourg, on en a parlé dans les GG, donc n'hésitez pas à réécouter le podcast, il sera en ligne dès la fin de l'émission. Il y a déjà les deux premières heures que vous pouvez réécouter avec notamment ce débat autour des primes pour les joueurs nantais en cas de maintien. Mais d'abord, c'est votre moment.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
Je rappelle que nous sommes avec Jean-Michel Larquet, Christophe Cessieux, Marion Bartoli et Renaud Longuèvre. Et on va accueillir Christophe qui a fait le 32-16. Salut Christophe.
Bonjour François, bonjour à tous, bonjour Marion, Captain, Christophe et Renaud. Et je pense que Renaud...
Tu veux parler à Renaud ?
Je vais lui reparler.
Ah oui, d'accord, vas-y, alors il t'écoute.
Renaud m'a un peu heurté quand il a parlé de la ville de Lens et ses 30 000 habitants. Et qu'il a souligné que c'était bien loin que la capacité du stade, 38 000. Il faut comprendre que le Pas-de-Calais, c'est le 8e département de France. 1 400 000 habitants et Lens, le RC Lens, est je pense plutôt le club du département quand on connaît le nombre de sections à travers la France. Et je pense en fait qu'effectivement c'est plutôt la structure du RC Lens qu'il faudrait reconfigurer ou entre mettre en parallèle avec par exemple l'Atalanta de Bergame en Italie. Et elle a structuré son club de la même façon que Lens, a laissé Gasperini fabriquer son club, faire son jeu, faire l'avant, d'ailleurs c'est un peu les caractéristiques du RC Lens, et ensuite structurer avec des joueurs qu'il a lui-même choisis. Et du coup, l'Atalanta de Bergame de 2019 est entrée en Champions League, est allée en quart de finale, éliminée par le PSG d'ailleurs, et ils avaient 80 millions de budget à l'époque, et grâce à la Champions League, ils se désormais en ont 115 millions, ils se sont qualifiés 3 fois, et ils sont en Europa League, et dans quelques jours, ils sont 6e actuellement. Ils peuvent très bien encore rentrer en Champions League l'année prochaine. Donc je pense que c'est plutôt une structure complète du club qu'il faut envisager et non pas réduire ça à la ville de Lens qui est pour moi, bien sûr, tant mieux, parce que je pense que c'est aussi l'image de la ville de Lens. C'est son, bien sûr, le Louvre-Lens, mais aussi le Racing Club de Lens qui est son image. Donc je pense qu'effectivement, c'est plus le département qu'il faut envisager et aussi le nombre de sections des supporters lensois. Voilà pourquoi. En plus, c'est un club historique. Je pense que le capitaine ne va pas me démentir qu'en 75, il a effectivement marqué l'image du club du RC Lens par sa reprise de volée. Ça, c'est une petite passe à Christophe Cessieux pour cet ému avant du Jean-Michel Larquet qu'il fera bientôt avec sa magnifique reprise de volée. Donc voilà, c'est simplement par rapport à ça.
D'accord.
Pourquoi il faut réduire Lens qu'à sa ville ? Je pense que économiquement, il y a effectivement quelque chose à creuser autour de l'image de l'Atalanta, par exemple. Je pense que Jean-Michel pourrait confirmer.
Effectivement, tu réponds à la question qu'on se posait sur Lens, peut-il encore grandir ? Donc, effectivement, l'exemple de l'Atalanta est intéressant. Mais comme c'est Renaud qui était pris à partie par Christophe, tu peux répondre, Renaud.
Ouais, alors merci parce que j'adore l'idée, l'Atalanta Bergame est un bon exemple, mais malheureusement et j'entends évidemment que ça c'est pas circonscrit aux 30 000 habitants. Moi, je voulais juste mettre en avant que ils sont déjà à un degré d'optimisation qui est fabuleux avec 4 préparateurs physiques, un directeur de la performance, un coach qui est extraordinaire de calme, et je pense qu'ils optimisent déjà de manière extraordinaire. Mais ce qui va limiter aussi, c'est la présence de Lille à côté, parce que Lille c'est un budget de 100 millions avec un stade plus grand. Et pour devenir le grand club du Nord, il y a une rivalité un peu comme celle qu'on a évoquée en basket. Mais moi, je demande que ça. Vraiment, je demande que ça. Simplement, j'émets des doutes dans la capacité à grandir de Lens.
Il y a l'image de Bergame d'un côté, l'exemple de Bergame. Tu as l'exemple de Leicester en Angleterre de l'autre. Leicester aussi qui a surperformé, qui est devenu champion d'Angleterre. Mais depuis.
Là, ils sont en difficulté. Ah ouais, c'est ça, cette saison.
Comment perdurer, comment rester au plus haut niveau
Effectivement, il y a des contre-exemples un peu partout. Mais comme le disait Christophe, c'est vrai que quand on est bien structuré, et là, on voit que Francaise, il n'est pas seulement coach, il est aussi manager. Et donc, s'il reste, évidemment, il a une vision un peu plus globale du club et pourquoi pas de son avenir. Merci beaucoup, Christophe, en tout cas. Tu reviens quand tu veux.
Merci beaucoup. Merci à tout le monde.
À très bientôt. Merci beaucoup. Et bravo à Lens, encore une fois. Patrick est avec nous et a fait le 32-16 dans les grandes gueules. Salut, Patrick.
Oui, bonjour à vous.
Alors toi, tu voulais revenir sur les primes du FC Nantes, hein, c'est ça? Tu voulais t'adresser à qui?
Bah, Jean-Michel, mais d'abord, je voudrais vous dire un bonjour à tout le monde. D'abord.
Bonjour, Patrick.
Bonjour.
Salut.
Bah, François, t'es le super sub, quoi.
C'est ça, c'est ça. Mais j'accepte, totalement.
Non, mais c'est bien. Marion, bah, je me souviens de toi à la finale de Wimbledon, j'oublierai jamais.
C'est gentil.
Et j'ai été très touché par l'émission que tu as vue sur RMC à propos de ta vie. Tu as raconté ton parcours de vie, j'étais très touché. Et bravo, bravo à toi, bravo.
D'accord.
Merci beaucoup.
Et tu as un petit mot c'est pour gentil. Christophe aussi, non?
Bah, Christophe, il a été remplaçable, même si une fois je l'ai taclé un petit peu en disant que l'important c'était aujourd'hui et demain, mais c'est vrai que c'était quand même pas mal avant, quoi.
Alors tu voulais.
Tellement de compliments que je.
Bah, Renaud, je le connais pas trop, donc.
D'accord, bah ne dis rien. T'as voulu dire un petit mot à chacun, en fait, c'est ça, t'es appel pour ça. Non, t'avais non, aussi c'est... quelque chose sur Nantes, c'est ça, à dire à Jean-Michel?
Bah, Jean-Michel Larquet. Il m'a fait rêver, pleurer, j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans.
Il veut pas revenir sur les débats.
Et je suis lyonnais, hein, Jean-Michel, donc voilà quoi.
Ah ouais.
Mais
Jean-Michel, il a marqué toute une génération.
Ah oui,
bien
sûr.
Et oui.
Bon. Mais bon.
Qu'est-ce que tu voulais dire sur Nantes?
Ben, Jean-Michel, c'est que le football avant, c'est plus le football d'aujourd'hui, quoi. Et. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien quoi. Mais simplement, Monsieur Valdemar Quitta, il investit son argent quoi. C'est pas un fonds de pension, c'est pas quoi que ce soit, c'est son argent quoi. Et si Nantes descend en Ligue 2, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les salariés du club. Il faut pas les oublier. Les joueurs, bon, ils sont forcément pas irréprochables, mais simplement cette prime. Elle est, c'est pas une garantie,
oui.
Simplement, c'est voilà, faire comprendre que merde quoi, je peux plus rester dans ce club et investir et créer des nouvelles structures si on va en Ligue 2 quoi. C'est donc quelque part, c'est déplorable, mais c'est compréhensible
mais quoi,
d'un point de vue économique.
D'accord.
Quoi.
Jean-Michel, rapidement. Tu veux répondre à Patrick?
Je n'ai jamais dit que Franck Quitta n'avait pas mis d'argent, beaucoup d'argent, de l'argent personnel. Valdemar Quitta,
ouais.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Franck, son fils.
Franck, oui. Que Valdemar Quitta n'avait pas mis beaucoup d'argent et son propre argent, comme en avait mis Loulou Nicolin en son temps. Je dis simplement que c'est une méthode qui ne me semble pas normal et efficace. Donc, je pense que aujourd'hui, essayer de rattraper les erreurs du passé par une prime de maintien me semble désuet. Voilà, et caduque. Je pense que ça ne rattrapera pas toutes les erreurs du FC Nantes. Le FC Nantes que je connais parfaitement, puisque mon premier match officiel avec la Saint-Étienne, c'était contre le FC Nantes, non pas à la Beaujoire, mais à Marcel Saupin. Et j'en avais pris 5-0. Et quand tu remets tes affaires dans ton sac, tu te dis, est-ce que je vais en gagner un dans ma vie? Donc, j'ai beaucoup de respect pour le FC Nantes. Ils m'en ont mis 5, j'en ai pris 5. Mais je pense que jusqu'à présent, les primes de maintien n'ont rien fait pour motiver les joueurs. Mais j'espère, ne serait-ce que pour Antoine, qu'ils vont se maintenir.
Nantes-Strasbourg, c'est à 15h. Merci beaucoup, Patrick. En tout cas, tu reviens quand tu veux, bien sûr, dans les grandes gueules. Salut, Captain. À bientôt. Un bon retour, quand même, de Jean-Michel. Bah oui. Ah oui, ça
va. Il est
vite,
pas mal, ce petit jeune.
Il est pas mal, ce petit jeune qui débute, hein, dans les grandes gueules.
Il a la bouteille. Il a l'expérience.
On le rappellera peut-être, hein. On se retrouve évidemment dans Rotten sans flamme également, 18h-20h sur RMC. Salut, Renaud. À très bientôt.
Salut à tous, bonne semaine.
Salut Christophe, à bientôt sur l'antenne d'RMC cet après-midi. Et Marion sur l'antenne d'RMC ce soir, 19h-20h.
Oui, Bartoli
Time, on va ne pas rater comme tous les dimanches soirs. Merci Marion, à bientôt.
Merci les amis, merci à vous.
Les grandes gueules du sport qui reviennent samedi prochain, 9h-midi sur RMC. Et tout de suite, vous l'avez compris, les paris RMC avec toute la Dream Team. Et on va parier sur ce Nantes-Strasbourg qui fait peur. À tout de suite.